Hey, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je reçois quelqu'un que tu as peut-être déjà entendu parler à la radio. C'est une de nos membres et c'est Mélodie Bouchard. Mélodie est médecin de famille et elle fait de la vulgarisation scientifique. Donc, Mélodie, parfois, elle est invitée à la radio pour rendre les choses simples à comprendre parce qu'on le sait, avec le corps humain, avec la santé, même avec la médecine, souvent c'est très, très, très compliqué, mais Mélodie est vraiment bonne pour expliquer ça de façon simple, facile à digérer et facile à assimiler. Donc, c'était vraiment cool d'avoir Mélodie sur le podcast. On parle de plein de choses. On va parler de stress, on va parler du rôle de l'insuline, on va parler aussi du diabète de type 2, on parle de santé métabolique, on va parler aussi des téléphones intelligents chez les jeunes. Fait, qu'est-ce qu'il y en est de ça? Donc, c'était une conversation vraiment, vraiment intéressante. On a parlé de beaucoup de choses. C'est un gros podcast cette semaine, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de l'écouter au complet. C'est un peu comme une consultation que tu vas avoir avec un médecin de famille dans le podcast d'aujourd'hui. Alors, j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Mélodie. Je te souhaite une bonne écoute. Mélodie, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Merci de prendre un moment pour venir jaser avec moi. Écoute, Mélo, t'es membre chez nous depuis 2-3 mois à peu près, déjà.
Mois de janvier.
Puis, quand on s'est rencontrés pour la première fois, j'ai dit « Hey, ça serait cool que tu viennes jaser sur le podcast parce que on avait une belle discussion. » Puis, toi, il faut que les gens comprennent que t'es médecin de famille. Puis que tu as un intérêt vers la santé, évidemment, mais aussi vers l'entraînement, la saine alimentation, les bonnes habitudes de vie. Fait que je trouvais ça cool de t'inviter sur le podcast pour jaser de santé métabolique, de briser certains mythes aussi qu'on entend dans le monde du fitness. Et en plus de ça, c'est que toi, tu fais des chroniques à la radio, à Radio X, que tu me disais, si je ne me trompe pas. Fait que tu es déjà habitué de parler de santé puis d'aborder des sujets pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent avoir une genre de consultation en ligne avec leur médecin de famille, façon de parler, dans le sens que souvent c'est d'entendre quelqu'un qui étudie en médecine puis qui a un solide background là-dedans, ben on peut répondre à des questions. Des fois, il y a des gens qui ont des interrogations, tout ça, fait que je trouvais ça cool de parler avec toi. Puis j'ai déjà fait l'expérience avec un de mes chums qui est cardiologue dans le coin de Montréal, puis on avait vraiment trouvé ça cool parce que comme une genre de mini conversation que tu peux avoir avec ton doc ou, ben, pas nécessairement ton docteur, on s'entend, mais des fois, ça peut t'aider à avoir des pistes de réflexion sur peut-être une problématique que tu as. Fait que je trouvais ça cool de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
Ben, merci, vraiment. Puis c'est tellement vrai ce que tu dis parce que la raison pourquoi j'ai décidé d'appeler à Radio X puis de leur dire « Avez-vous besoin de quelqu'un pour faire des chroniques médicales? » Puis ils étaient super contents, mais c'est parce que dans mon bureau, je vois une personne à la fois, puis je peux avoir une discussion avec une personne, mais quand je fais des chroniques à la radio, que ce soit 10 à 20 000 auditeurs à peu près, là, dans les pics des heures du matin, j'ai l'impression que je peux vraiment utiliser les connaissances que j'ai, puis la facilité que j'ai à vulgariser, je pense. Je me fais dire souvent que je vulgarise bien, puis que l'idée, c'est justement de transmettre cette information-là dans des façons le plus simplifiées possible pour que le plus de gens possible puissent l'entendre. Puis effectivement, comme tu dis, même si c'est pas individualisé à la personne, mais c'est quand même des informations qui peuvent être pertinentes de savoir. Puis, au cours de notre conversation, je pense que je pourrais certainement rapporter à des discussions que j'ai eues avec des cas, des exemples, des patients, des choses comme ça. Fait que je pense que les gens qui nous écoutent vont être capables de s'identifier ou d'au moins de retirer de l'information qui peut être applicable à eux, même si on parle pas spécifiquement de leur dossier.
Ouais, exact. Parce qu'il faut comprendre que quand on parle du corps humain puis de la santé en général, tu as des grandes lignes qui peuvent faire du sens, sauf que le corps humain puis la santé, c'est une énorme zone grise. Tu peux pas avoir du noir, du blanc, c'est comme... Tu sais, souvent, on se fait poser des questions, nous, sur l'alimentation, les habitudes de vie, tout ça, c'est comme... Honnêtement, je vais te dire que ça dépend. Puis après ça, on va commencer à te poser des questions un petit peu plus, parce que il y a pas de one size fits all, il y a pas de formule comme une équation parfaite qui fonctionne pour chaque être humain. Parce que ça fonctionne pas comme ça. Tu sais, tu regardes, admettons, construire un building, souvent avec les formules mathématiques, avec tous les plans d'architecte, c'est comme, c'est mathématique, c'est une formule que tu appliques, tu es capable de, je suis pas trop expert là-dedans, mais le corps humain, tabarouette, on vit des émotions, des fois on dort moins bien, des fois on est plus stressé, y a plein d'affaires qui se passent, fait que c'est sûr que... On peut pas vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment pas ça le but du podcast. Je vais mettre la table d'emblée, c'est que c'est juste d'avoir une conversation puis de discuter de c'est quoi la santé métabolique puis tout ça. Mais si on a des cas spécifiques, des cas particuliers, c'est toujours bon d'avoir une consultation avec son médecin de famille, si on a un, évidemment. Puis il faut pas tout prendre pour du cash non plus, là. Fait que,
absolument. Comme dans bien des... C'est vrai. Oui, parce que, par exemple, là, probablement que les ingénieurs qui m'écoutent vont me taper sa tête, mais tu sais, on peut penser qu'un morceau d'acier ou un morceau de bois sous différents stress va réagir d'une façon qui est prévisible. Ils sont capables, avec des formules, de savoir que tel matériau, mais les humains, on a tellement, c'est tellement vaste, puis on a le psychologique et le physique qui viennent interagir les uns avec les autres. Fait que c'est sûr que c'est effectivement la réponse, ça dépend, c'est la meilleure réponse. Puis je pense que si quelqu'un a une question sur sa santé, vous répond oui ou ben non, tout de suite, moi, je me braque un peu, là, on voit plein d'influenceurs qui disent telle chose, c'est pas bon ou telle chose, c'est bon pour tout le monde. On peut pas faire des généralisations comme ça, parce qu'il y a très, très peu de choses dans la science médicale qui est prouvée à 100%. Tu sais, par exemple, le tabagisme augmente le risque de cancer du poumon. Ça, c'est une des certitudes qu'on a en médecine. Mais des certitudes comme ça, là, solides comme ça, il y en a, on pourrait les compter sur une main, probablement. Fait que c'est pour ça que on appelle ça, je pense, que la médecine, c'est un art aussi, parce qu'il y a vraiment une grande partie qui est de... pas du tout de l'improvisation, mais de prendre la science qu'on connaît pour l'appliquer à l'individu. Mais cette application-là va nécessairement venir d'une certaine créativité, parce que le cas devant nous, on ne l'a jamais vu, puis il n'a jamais été étudié spécifiquement. Fait que c'est de là, je pense, que les gens disent que l'intelligence artificielle pourra remplacer les médecins, puis là, ils ont fait des études où est-ce que les patients parlaient à une intelligence artificielle, puis l'intelligence artificielle leur donnait la même chose qu'un médecin, mais OK. Mais en même temps, dans les cas plus compliqués, je pense que on va toujours avoir besoin d'un docteur, puis d'un cerveau humain, émotif, pour catcher comment appliquer la science à l'individu en particulier. Fait que c'est vraiment vrai que si un influenceur ou quelqu'un vous donne une réponse noir et blanc, je prendrais un pas de recul de douter un peu de ce que la personne vous dit. 100% là.
D'accord. 100% d'accord. Puis encore en fin de semaine, j'en ai vu des influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont des titres de naturopathe, whatever. Je n'ai absolument rien contre les naturaux, mais des fois, il faut faire attention avec certains titres que les gens vont avoir qui sont influenceurs, qui vont dire un peu n'importe quoi, puis c'est pas nuancé. Puis l'affaire avec les réseaux sociaux, c'est, je le répète souvent dans les podcasts, c'est que le marketing, si tu veux tirer ton épingle du jeu en ce moment, c'est que t'as pas le choix d'être noir ou blanc, puis d'aller avec de quoi qui est tranchant, qui va faire réagir, qui va amener de la discussion, des posts, autant positifs, négatifs, parce que tu dis, je m'en fous, je vais me faire connaître, mon contenu va se faire voir, tu sais. Sauf que faut comprendre qu'il y a une grosse stratégie marketing en arrière de ça, mais la santé, c'est pas juste du marketing, on s'entend, là. T'sais, oui, t'as peut-être une formule pour aider les gens, fine, sauf qu'à un moment donné, lancer des affaires en l'air comme ça, que t'es comme... En tout cas, bref, je veux pas trop rentrer là-dedans, mais faut faire attention. T'sais, là, comme absolument manger des légumes biologiques. Ben écoute, dis ça à une maman de 3 enfants qui a de la misère à payer ses billes, mange juste des légumes biologiques, probablement qu'elle va dire « fuck that, moi mon budget me le permet pas ». Fait que l'intelligence artificielle ou l'influenceur ou ce que tu vas voir qui est noir ou blanc, il comprend pas, tu sais. Fait que c'est un peu la même affaire que tu disais, l'intelligence artificielle pourra jamais vraiment remplacer le cerveau humain puis toute l'émotion, parce que tu regardes une personne devant toi, probablement que c'est déjà arrivé, elle est super stressée. On parle de sa santé, là, fait qu'on parle de quoi qui est quand même super important. Comme là, elle a juste besoin de se faire rassurer puis d'avoir une personne qui va l'écouter puis qui va comprendre, puis qui va lui dire « Regarde, je sais que tu entends peut-être bien des affaires sur ta condition à gauche puis à droite, mais là, fais-moi confiance, on va trouver la solution puis on va vraiment essayer de comprendre ensemble puis de t'aider là-dedans. » L'intelligence artificielle, à ce que je sais aujourd'hui, elle fera jamais ça.
Vraiment, puis comme tu as dit, je suis pas une pro des médias sociaux, mais je pense que pour qu'un post ait de l'attraction, il faut qu'il y ait les gens interagissent avec, ouais. Donc autant dans le positif que dans le négatif. Exact. Donc si je fais un post, puis aussi il y a tout l'aspect, là, les filles avec les petites shorts rentrées bien comme il faut, ouais. Avec les fesses directes dans la caméra, puis tout ça, ouais. Là, c'est une façon qui est utilisée ou... c'est pas parce qu'une personne est en belle forme physique non plus que ses conseils, on doit les écouter, parce qu'on sait pas du tout c'est quoi qui vient derrière ça. Il y a-tu de l'orthorexie, l'anorexie, des problèmes de santé mentale par rapport à...
La prise de produits.
C'est ça, oui, absolument. Puis aussi faire des statements très, très noirs ou blancs, justement, c'est ça qui fait réagir les gens. Il y a du monde qui vont dire « Ah, ça, c'est de la merde, ça, c'est bon. » Fait que le post, il gagne, puis là, la personne est contente parce que c'est ça qu'elle veut. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des bons influenceurs qui existent. Par contre, il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier. Il y en a qui sont excellents, puis qui leurs posts ont beaucoup, beaucoup de contenu verbal, puis il y a plusieurs nuances, puis il y a des belles choses à aller chercher, je pense, dans les médias sociaux, vu que c'est surtout, mettons, les Reels ou les TikTok, ça permet de résumer rapidement un enjeu de santé, mais il faut quand même demeurer assez critique là-dessus. Puis quand on sent que c'est très, très noir ou blanc, moi, j'irai au suivant. Parce qu'un vrai post qui va être intéressant pour nous, c'est quand il y a de la nuance. Puis souvent, c'est moins flashy, là, quand c'est nuancé. Fait que...
Ben oui, c'est ça. Exact. Parce que tout ce qui est funky, c'est comme une méthode comme qui punch, ben les gens ont besoin de ça. Ils ont le sentiment que leur problème est tellement compliqué que la solution doit être extrêmement compliquée pour régler leur problème. Mais dans 99% des cas, du moins, à peu près, c'est ta solution est simple. C'est juste qu'on a tendance à vouloir complexifier les choses. Puis je parlais de ça avec un client hier, j'étais comme, on parlait du jeûne intermittent qu'on pourra même parler, je vais le mettre dans ma liste plus tard dans les mythes, mais... Je disais, comme on essayait de trouver un moyen pour qu'il y ait une consommation de calories qui fait du sens dans la journée. Je disais, comme arrête juste de snacker le soir. Tu sais, prends ton souper, puis le soir, comme t'as pas faim, c'est juste une habitude d'aller devant la télé, puis de manger. C'est juste que c'est un pattern que tu répètes, puis t'as l'impression d'avoir faim, puis t'es 100% d'accord avec moi. Puis j'étais comme, tu sais, je pourrais te dire, j'ai trouvé le jeûne 12-12. Selon la science, le 12-12, c'est la meilleure stratégie pour perdre du gras. Tu sais, au final, 12-12, j'étais comme, c'est 12 heures de temps que tu manges, puis 12 heures de temps que tu manges pas, incluant ton 8 heures de sommeil à peu près. Fait qu'au final, ce que ça veut dire, c'est que tu arrêtes de snacker le soir. Mais tu fais comme le formuler, c'est un 12-12. Essaye la méthode 12-12, tu vas perdre du gras.
Ouais.
Au final, c'est juste d'arrêter. Arrête de manger le soir devant la TV, ce qu'on se fait toujours dire, mais là, on est comme écœuré de se faire dire ça. Fait qu'on n'adhère pas à ça. On a besoin d'avoir une stratégie ou une méthode miracle qui va faire en sorte que on va faire un jeûne 12-12. Mais au final, c'est ça. C'est juste de. Arrête de prendre ta collation du soir que tu n'as probablement pas besoin en ce moment. Fait que faut le comprendre, ça. T'sais.
C'est ça. Puis tu sais, le 12-12 ou le jeûne intermittent, parce que la notion de pas snacker le soir, c'est vrai que ça fait vraiment du sens pour l'apport calorique, pour la qualité du sommeil aussi. Mais c'est que, par contre, d'étudier si ça marche ou pas, c'est très difficile parce que ne pas snacker le soir, c'est comme assez vaste puis flou un peu comme description. Fait que je pense que toutes les études puis la mode derrière le nombre d'heures précis, là, 12-12, 16-8, 14-10, tu sais, ça vient du fait que il y a eu des études qui ont été faites parce que c'était assez facile de dire 12-12, 14-10, 16-8. Puis c'est pour ça que soudainement on a de la science derrière parce que c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus concret que de dire, on a dit aux participants de ne pas snacker le soir, mais c'est quoi la définition de soir? Ouais. C'est quoi la définition de snacker? C'est quoi la définition de, tu sais? Fait que là, on a de la science qui sort par rapport au 12-12 ou au jeûne intermittent, mais la notion derrière ça, c'est mange pas le soir, tu sais? Ouais. Mais c'est bien à la mode, justement, de dire. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des gens aussi qui aiment ça, la simplicité d'avoir une règle, une seule règle. Je pense que le jeûne intermittent est devenu super populaire à cause de ça parce que c'est mange ce que tu veux, mais fais juste pas manger dans ta window de pas manger. Il y a des gens que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent juste une façon simple de le faire, puis ils s'en foutent de la science derrière, ils s'en foutent du métabolisme derrière. Ils veulent juste le faire, puis pour eux, ça peut marcher très bien. Là, fait que ça peut être pertinent, je pense, de le recommander aux gens. Si, en jasant avec eux, on se rend compte que ils cherchent vraiment de quoi de simple. Ça, la science derrière, ça les intéresse pas. Moi, ça m'est arrivé de le recommander jeune intermittent à cause de la simplicité derrière, puis de pas mettre à tout expliquer parce que le patient, c'est ça qu'il veut, là, t'sais.
Ouais. C'est ça, il y a tellement de. On pourrait le voir de tellement d'angles différents là, que il y a plein de façons de penser par rapport au jeûne, par rapport aux intervalles là, de tu manges, tu ne manges pas. Puis pour en venir avec le snack du soir, ben là, on pourrait rentrer dans les nuances comme c'est sûr que si tu es allé t'entraîner à 7h30, tu arrives à 8h30 après ton training, tu as faim, écoute, mange là.
C'est ça, exact.
C'est vraiment pas grave, là, dans le sens que tu as besoin de manger, tu viens de t'entraîner ou bien tu viens de faire une game de soccer avec l'été qui arrive. Mais écoute, ça brisera pas ta transformation, ta progression si tu manges une fois.
Fait que c'est ça. Faut
toujours puis comprendre.
Même, la personne va moins bien dormir pour aller souvent m'entraîner le soir. Là, si je m'entraîne puis je mange pas, je dors pas bien. Fait que
c'est ça, tu sais, comme oui, pas manger avant de te coucher, ça va améliorer ton sommeil. Sauf que si tu t'es entraîné, puis là, t'as faim, puis tu te couches avec l'appétit, ben là, tu vas te lever à minuit, ton ventre va gargouiller, t'as faim, puis là, t'es plus capable de dormir parce que t'as trop faim, puis là, tu vas te lever, tu vas manger une banane avec un bol de céréales. Ben, t'aurais été mieux de le faire à 8h30, puis pas couper ton sommeil, tu sais.
C'est ça.
Faut comprendre ça aussi.
C'est dans les choix aussi qu'on fait, là. Tu sais, je suis beaucoup en train de lire là-dessus, là, la raison... parce que probablement que dans les clients que vous avez chez vous, peut-être plus les filles sont prêtes à admettre que les gars, mais que l'aspect de manger ses émotions ou de manger parce qu'on se sent pas bien ou de manger dans l'optique d'oublier un peu le feeling un peu inconfortable qu'on a à l'intérieur, parce que je suis en train vraiment de lire là-dessus, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis peut-être que les gars sont moins tendance à aller vers ce mécanisme-là ou sont moins prêts à l'admettre. Mais je pense que de manger le soir, justement, le soir, quand on est fatigué à la fin de la journée, des fois, il y a de l'anxiété qui peut arriver. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent manger, justement, le soir parce que quand tu manges, ça efface un petit peu ce sentiment-là d'anxiété. Fait que c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger, tu sais, parce que si la personne elle a zéro anxiété, puis elle se sent bien, puis elle dit « j'ai faim à 8h30, mais elle m'a dit de ne pas manger le soir », c'est encore là que tout dépend, tu sais. Si la personne, elle sait qu'elle peut avoir cette tendance-là, bien là, ça va être de travailler sur son anxiété. Tandis que si la personne, elle n'a aucune anxiété pour vrai, puis elle se sent super bien, bien là, on peut lui dire « oui, tu peux manger le soir », puis là, on va te donner des outils pour choisir des bons aliments à manger le soir, tu sais. Fait que ça dépend vraiment de la personne, puis de la situation.
Mais c'est vrai que les gars, je pense qu'ils l'admettent pas, mais ils ont aussi ce pattern-là souvent, ce que je vois en consultation. C'est juste qu'ils l'admettent moins facilement que les femmes. Mais c'est un peu ça. Tu sais, souvent, c'est la journée, quelqu'un qui est occupé, qui a des enfants, qui travaille, va gauler toutes les tâches qu'elle doit faire dans sa journée. Puis là, après ça, t'arrives, la routine avec les enfants, puis là, t'as l'impression que t'as pas arrêté pendant tout, puis il est comme 8h15, puis t'es comme « enfin, je peux souffler ». Puis là, tu fais comme décanter un peu de ta journée que tu as été stressé, puis tu as été vraiment au corps de tour. Puis là, bang, tu as comme, hey, j'ai besoin d'avoir mon petit moment où c'est que un peu plus réconfortant, puis j'ai été stressé, puis je vis quelque chose de gros au travail ou dans ma vie personnelle en ce moment. Fait que là, tu as les fameux cravings de fin de soirée, le salé, le sucré. Bien, il faut que tu comprennes d'un fois que ça, il y a une raison qui explique pourquoi tu as ce comportement-là versus une personne que. Elle a faim, tout est stable dans sa vie, ça va super bien. Ben, si elle a faim, il faut qu'elle écoute quand même ses signaux de faim, puis elle peut manger de quoi qui est super santé pour elle, puis ça va être parfait.
Exactement. Parce que deux points. Le premier, c'est qu'effectivement, de dire à quelqu'un de renier sa sensation de satiété ou de faim, dans notre société en ce moment, je pense que c'est vraiment pas la chose à faire, là. Il faut justement redécouvrir ces sensations-là, puis de. Les réapprivoiser puis ne pas les nier, justement, parce que je trouve que le jeûne intermittent, un des dangers de ça aussi, c'est que on dit aux personnes, ne te fie plus à tes signaux corporels, mais fie-toi à l'heure. Puis ça peut être un peu... ça peut être dangereux un peu d'externaliser les signaux pour s'alimenter puis de les mettre sur une horloge au lieu de les mettre à l'intérieur. Mais chez les gens qui sont prêts à admettre un peu que quand le soir, justement, enfin, c'est mon moment, je me sens, j'ai travaillé toute la journée, soit que je mérite une récompense, j'ai mangé super bien toute la journée, j'ai suivi mes macros, j'ai compté, nanana, mais là, je suis fatiguée, je suis écœurée, je vais juste aller me gâter, ou bien je me sens pas bien, j'ai de quoi de stressant demain, ou mon travail, c'est chiant, etc. J'ai besoin de me sentir bien dans l'immédiat. Puis souvent, chez les gens qui ont des familles, tu sais, l'alcool, mais je ne prendrai pas d'alcool parce qu'il faut que je sois là pour mes enfants, je ne veux pas avoir de conséquences demain. Drogue, encore moins. Puis tous les comportements qui peuvent nous faire sentir bien dans le moment présent. Le moins pire, c'est de manger parce que la seule personne que ça a un impact, c'est sur nous. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quand même une belle maturité émotionnelle quand que ta façon de te calmer à l'intérieur, c'est la nourriture au lieu d'être genre la drogue, le jeu, l'alcool, etc. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui prennent ces options-là. Fait que, tu sais, je pense que les gens se sentent souvent vraiment coupables de faire ça. Puis, une fois qu'on est capable de l'admettre, je pense que de s'asseoir puis de vraiment réagir, de réfléchir à qu'est-ce que mon corps a vraiment besoin en ce moment. Puis c'est très peu souvent de la nourriture, tu sais. Sauf qu'il faut être capable de s'asseoir puis de vraiment être capable de tolérer l'inconfort brièvement puis de pas tout de suite aller dans le frigidaire ou dans le garde-manger pour aller calmer ça. Puis, tu sais, la première étape, c'est juste de s'en rendre compte, tu sais, s'il y a des gens qui réalisent, aïe, là, j'ai pas faim, mais je mange parce que c'est bon puis je me sens bien après, tu sais. Fait que, moi, je me suis rendu compte récemment que quand je suis stressée avec la job ou peu importe, souvent, je vais manger avant de dormir parce que quand tu manges, t'es comme un peu endormi après, là, quand tu manges de quoi de sucré, de quoi comme ça, puis que ça m'aidait à m'endormir, tu sais. Fait que, au lieu de prendre un somnifère, au lieu de prendre un verre de vin, j'allais manger avant, mais là, j'ai fait comme « Ah! J'utilise vraiment ça pour m'aider à dormir, tu sais. » Puis là, c'est un comportement sur lequel je travaille en ce moment, mais de réaliser ça, ça peut être vraiment intéressant, puis de il y a plein de livres là-dessus, fait que les clients que tu rencontres qui réalisent qu'il y a ça, là, ça peut être vraiment un début de commencer à s'intéresser à ça.
Ouais, parce que tu sais, souvent, c'est de poser la question, on est parti là-dessus, là, puis on reviendra tantôt avec la santé métabolique, mais c'est comme tu t'assois, puis t'as comme, hey, là, je viens de décanter de ma journée, j'ai faim. Bon, est-ce que j'ai soif ou j'ai faim? Est-ce que j'ai bu assez d'eau dans les heures précédentes? Et comment, crime, je ne suis pas tant hydraté? Fait que, tu sais, première étape, tu peux boire de l'eau. Après ça, tu peux comme... Souvent, c'est que tu as juste besoin d'avoir une coupure, tu sais, d'aller marcher, d'avoir un 10-15 minutes où ce que tu vas marcher. Puis il y en a qui sont tellement comme... Ils ont juste besoin de dessiner, de faire de quoi qui est relaxant. Après ça, si tu vois que la faim est comme... toujours omniprésente, t'es comme, ouais, j'ai bu de l'eau, j'ai fait une coupure, j'ai pris une douche, j'ai pris un bain, il me semble que j'ai encore faim. Mais rendu là, c'est juste d'éduquer les gens, de dire, ben garde, tu peux manger le soir, il n'y a aucun problème. Mais tu peux prendre des snacks qui font du sens pour toi. Ouais. Ça peut être un yogourt grec avec des fruits puis des noix cassées. Ça peut être, c'est comme moi le soir, quand j'ai des cravings, j'ai eu une grosse journée, ben, je vais me prendre un bol de, moi j'aime bien les mangues congelées, fait que je me prends des mangues congelées, je prends un peu de beurre d'amande, ben des noix. Puis pour moi, c'est mon moment que j'aime ça. C'est un bon snack que je sais que je vais bien dormir, que ça fit avec mes objectifs fitness. Fait que ça fait du sens pour moi. Puis il y a des moments que des fois, ça va m'arriver comme je suis en vacances, puis on est chill, on écoute un film. J'ai dit, hey, on fait un snack. À soi, on mange des chips. Ben, ça va être ça, tu sais. Fait qu'il faut juste choisir les moments. C'est juste aussi de comprendre c'est quoi notre objectif. Là, si on parle un peu plus d'entraînement, si tu es dans un déficit calorique ou ce que tu veux perdre la masse adipeuse, bien là, tu es dans un tournant, tu es dans un déséquilibre qu'il faut que tu comprennes que ça se peut que tes choix soient différents dans le temps que tu veux perdre du gras, admettons, ou si tu es en maintien, bien là, c'est complètement différent comme approche. Ouais. Si tu es en prise de masse, même affaire aussi. Fait que, encore une fois, c'est que ça dépend, tu sais. Ça dépend de la personne, ça dépend de son background, ça dépend de sa réalité.
Un autre truc que j'aime bien dire à mes patients, c'est que si, est-ce que tu mangerais une pomme en ce moment? Puis si la réponse est, oh non, je voudrais de quoi mieux qu'une pomme, mais t'as pas vraiment faim. Parce que si t'as vraiment faim, tu vas manger une pomme parce que t'as faim, puis elle va être satisfaisante, tu sais. Mais si t'es comme, oh non, je voudrais des biscuits ou de quoi comme ça, ça veut dire que c'est pas nécessairement de la vraie faim, c'est plus un désir de confort, tu sais. Puis, une affaire aussi que j'aime beaucoup parler avec mes patients, surtout femmes, justement, parce qu'il y a plus d'ouverture, peut-être. Mais c'est que dans le fond, le système nerveux au cours de la journée accumule beaucoup de tension. Puis beaucoup de. On peut le sentir dans nos épaules, on peut le sentir dans notre mâchoire, dans notre cou. Puis de cette tension-là doit être relâchée d'une certaine façon, parce que sinon on peut l'accumuler. Puis ça fait une augmentation vraiment du stress au fil du temps puis des années. Mais une façon de relâcher ce stress-là, tu as parlé d'aller prendre une marche, dans le fond, c'est de faire bouger son corps, mais pas nécessairement d'aller au gym, mais juste de faire bouger son corps. Fait que si vous avez une chaise berçante, juste de se bercer. Si vous n'avez pas de chaise berçante, juste d'être debout puis de passer de un pied à l'autre comme ça. C'est vraiment une façon que le corps peut relâcher ce genre d'énergie-là. Il y a plein d'autres exercices. On peut se mettre en petite boule à terre puis se bercer par en avant, par en arrière. C'est comme juste une façon pour le corps de relâcher cette énergie mentale-là. Dans le fond, ça s'appelle la relâche somatique, là. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant pour les gens qui sentent qu'ils ont vraiment beaucoup d'anxiété puis qui ne savent pas comme quoi faire avec. Puis que d'aller manger, ça fait du bien, ça la calme, mais elle va quand même rester là. Fait que de faire des mouvements, fait que tu sais, la marche, c'est super. Puis t'as l'air moins cave quand tu fais une marche que quand tu te balances d'un pied à l'autre. Mais c'est des façons aussi que les gens peuvent faire là, pour relâcher cette énergie-là ou juste être conscient justement qu'on a vraiment beaucoup de tensions accumulées puis de s'en rendre compte, de faire des scans corporels. Là, tu sais, sur YouTube, il y en a plein des méditations de scans corporels où est-ce qu'on focus sur les pieds, on remonte jusqu'à la tête, tout ça. Ça peut vraiment être une bonne façon aussi de relâcher cette énergie-là. Faire notre lien vers la santé métabolique, c'est que, dans le fond, c'est que si on est tout le temps stressé, on est quand même des hommes de caverne, si on est des animaux, on a tout à l'intérieur de nous un système nerveux qui a été créé originalement pour nous sauver des prédateurs puis des situations où est-ce qu'on pouvait mourir dans un environnement où est-ce que, quand on vivait dans l'âge préhistorique, qu'on se faisait courir après par des lions, des choses comme ça, on a tout ce mécanisme à l'intérieur de nous pour, il y a un lion qui rentre dans la pièce en ce moment, je vais me lever, je vais tout exploser, puis je vais partir par là-bas avec une force que je sais pas, elle va venir de où, mais on a tout ça à l'intérieur de nous, puis en ce moment, on l'utilise aucunement, cette force-là, puis ce système-là. Fait que ce système-là, il est comme sur le idle, là, puis il attend tout le temps, OK, à un moment donné, je vais être utilisé, à un moment donné, je vais être utilisé. Puis là, les théories qu'on a derrière ça, c'est que le stress social puis financier, il a comme pris la place du stress pour notre vie, du stress vraiment physique. Sauf que le problème, c'est que, étant donné que le lion, ben il apparaît, je me sauve, soit je me fais bouffer par le lion ou je finis par me sauver, puis soit dans l'heure après ou dans les 4-5 heures après, je suis en sécurité à nouveau, fait que là, j'ai un gros drop d'adrénaline, puis là, je suis en sécurité. Mais nous, ces stresseurs-là, financiers, sociaux, relationnels, sont tout le temps présents. Fait que ça fait que ce système-là, il est tout le temps dans le tapis. Puis ce système-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il fait, il engendre la production de cortisol, d'adrénaline. Puis le cortisol puis l'adrénaline, c'est vraiment des hormones qui ont énormément d'impact dans tout le corps. Donc, ils sont relâchés par le cerveau puis par les glandes surrénaliennes dans la bédaine, puis ils s'en vont dans le sang, puis ils vont affecter nos yeux, notre cerveau, nos muscles, notre peau, notre système digestif, notre système sexuel, tout. Puis, on a très peu de conscience par rapport à comment relâcher ce système-là. Puis, quand on a de cortisol qui est élevé, l'idée, c'est vraiment d'imaginer, justement, il y a un lion qui rentre dans la pièce, je vais courir. Donc, quand je vais courir, qu'est-ce qui se passe? Bien, on l'a tous déjà vécu, hein, s'entraîner le ventre plein ou s'entraîner après avoir mangé, on va avoir mal au ventre parce que le sang qui est censé être dans notre système digestif, bien, il est dirigé vers le muscle qu'on est en train de travailler. Fait que le cortisol puis l'adrénaline, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire qu'il va y avoir moins de circulation au niveau du système digestif. Donc, on peut avoir chroniquement la difficulté à digérer, on est ballonné, on a l'impression qu'on ne tolère aucun aliment, que dès que je mange quelque chose de différent, j'ai mal au ventre, je suis ballonné, je suis constipé, j'ai de la diarrhée, je ne suis jamais normale, je suis tout le temps entre les deux, je suis tout le temps pogné de l'estomac, j'ai des brûlements d'estomac. Fait que c'est pas pour rien que les ulcères d'estomac, les douleurs d'estomac, c'est associé avec du stress, c'est ça. Fait que ça, le système digestif, c'est juste un des aspects, parce qu'il y en a plein. Fait que de réaliser que ce système-là, il est tout le temps hyper actif, on peut facilement s'épuiser puis devenir vraiment malade à cause de ça. Puis au fil du temps aussi, si je suis constamment dans l'idée que j'ai un lion qui me court après, mes artères sont durcies pour pouvoir envoyer le sang partout dans mon corps, fait que ma pression augmente, ma fréquence cardiaque augmente, et au long cours, ben là, ça crée des dommages sur les artères, sur le cœur, sur les très petites artères qu'on a dans notre corps, qui sont très fragiles. Ces très petites artères-là, on les retrouve au niveau des yeux, on les retrouve au niveau des reins, puis on les retrouve au niveau des organes sexuels. Fait que les gars, une des premières affaires qui va se passer quand ton système cardiovasculaire est plus en forme, c'est la perte d'érection. Fait que souvent, ça, c'est la première chose vers 40, 45 ans. Si j'ai pas des bonnes habitudes de vie, c'est quelque chose qui peut arriver. Fait que pis ça, c'est un produit, justement, de ce système-là qui est tout le temps dans le tapis. Fait que c'est important d'avoir des façons de relâcher ça, comme en s'entraînant, en se dépassant physiquement. C'est pour ça qu'on se sent aussi bien après avoir été s'entraîner. Est-ce qu'on a poussé ce système-là? On est allé le stresser, on est allé le mettre sous tension, puis on a une méchante belle récompense après, parce que là, hein, si on peut avoir mal parce qu'on a forcé, si je me suis sauvée du lion, j'ai monté dans l'arbre, je me suis graffinée partout, je vais comme être buzzée pour pendant comme plusieurs heures pour comme me récompenser de m'être sauvée du lion, puis ne pas sentir toutes mes douleurs, tout ça, fait qu'on a vraiment tout ça à l'intérieur de nous, puis on a comme perdu un peu comment l'utiliser, là.
C'est bon, parce que là, dans le fond, tu viens de décrire globalement le stress chronique qu'on connaît.
Oui.
En comme 5 minutes, mettons.
Ouais. Mais
c'est pour ça qu'on dit que le stress, on en parle tout le temps du stress, puis c'est un... Écoute, le stress, je pense, c'est un facteur, c'est selon moi le facteur qui crée le plus de dommages dans notre société actuellement. Pourquoi les gens sont de plus en plus malades, qui développent certaines maladies, qui ont plein d'impact dans leur vie. Ben le stress, c'est comme, parce que ça va affecter tout, ça affecte ta digestion, comme tu disais, ça va affecter ton sommeil, ça va affecter tes relations, fait que le stress, il est tellement présent dans la société, puis moi, je pense que quelqu'un qui me dit qu'il est pas stressé, bullshit, tout le monde est stressé, là. En 2024, dans le monde dans lequel on est, je connais personne qui est pas stressé. Bon, il y en a qui ont des meilleures tolérances au stress que d'autres, il y en a qui sont capables d'en supporter plus que d'autres, sauf que tout le monde a un stress, tu sais, écoute, mettons, les gens qui ont des enfants, tu vas chercher ton petit à galerie parce que ça fait de la fièvre. Ben, c'est un stress pareil, dans le sens que c'est pas une journée qui était prévue comme aller, faut que ça change ton cours de la journée, faut que tu aies occupé de ton gars ou de ta fille. Fait que c'est pas un big deal, sauf que c'est un léger stress que t'accumules, tu sais. Comme tu dis, c'est qu'on est très primitif dans notre façon de réagir, puis aujourd'hui, être en retard à job, ben, c'est un lion. Après ça, on a une conférence devant une dizaine de personnes, mais c'est l'équivalent d'un lion. Fait qu'on fait plus vraiment comme tout le day-to-day quotidien, le stress qu'on doit faire face, ben c'est plein de lions qui nous attaquent tout le temps. Fait que c'est sûr que le corps, à un moment donné, vient qu'à s'épuiser de tout ça. Puis là, tu as toutes les conséquences au niveau du système métabolique, puis au niveau du corps, en fait. Parce que tu parlais des lions, tu sais, il y a un livre qui s'appelle « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère ». Je sais pas si tu as déjà lu ça, mais c'est un zèbre, c'est un peu comme tu viens de dire, un zèbre dans la jungle, ça va vivre sa vie bien chill, puis à un moment donné, ben il y a un lion qui est le prédateur qui va attaquer le troupeau de zèbre. Fait que là, oh shit, il y a un lion, fait que tu as le système de fight or flight, là, c'est tu te combattes ou tu te sauves. Fait que là, bang, il se sauve. Puis là, ben il réussit à échapper au lion. Fait que là, le lion a pogné un autre ou finalement, il a pogné personne. Fait que là, le zèbre, il est comme... « Oh, tabarouette, j'étais stressé, puis là, j'ai réussi à me sauver de tout ça. » Fait que lui, il revient à chiller. Il recommence à manger. Puis... Oui. Fait qu'il disait, pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère? Tu sais, c'est comme un livre sur le stress. Pourquoi les zèbres ne développent pas d'ulcère d'estomac? Puis là, il fait le lien, justement, avec tous les symptômes, mais tous les problèmes que l'être humain en 2024 subit sur sa santé qui sont... causé par le stress. C'est tantôt, tu parlais de digestion. Il y a combien de problèmes de digestion chez hommes et femmes que c'est juste... C'est pas parce que c'est le stress qui est la racine de ça, tu sais. C'est pas parce que tu fais nécessairement des moins bons choix alimentaires, parce que des fois, tu peux avoir une bonne alimentation qui fait du sens, puis soudainement, la même affaire que tu manges d'habitude, tu te rends compte que tu le digères moins bien. T'es comme, voyons, pourtant, ça, normalement, je mange ça, puis ça me cause pas de ballonnement ou des troubles digestifs, ben c'est parce que regarde qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu es en train de déménager puis tu changes de job en même temps. Ça se peut que ce que tu manges normalement te cause pas de ballonnement ou d'inconfort gastrique, mais là, en ce moment, ça t'en cause. Mais c'est pas l'aliment en soi que soudainement, tu deviens intolérant à ça ou que ça passe plus pantoute. C'est parce que là, il y a plein d'affaires qui se passent dans ta vie professionnelle et personnelle qui affectent ta digestion, mais c'est le stress la racine de tout ça.
Absolument. Puis, pour revenir à ce que je parlais tantôt, là, de la relâche somatique, il y a... Les personnes qui parlent de ça regardent beaucoup au niveau de la nature, les animaux qui ont justement des séquences très, très, très relaxes. Je mange dans la savane, mon petit gazon par terre, il y a un lion qui apparaît, je me sauve, puis après ça, je reviens très relax. Mais il y a comme une genre de cascade vers le bas pour que l'animal puisse repartir de son état super stressé à son état de base. Puis les animaux vont faire, puis on peut le voir si on a des chats ou des chiens, ils vont se shaker, ils vont beaucoup faire de mouvements répétitifs, marcher par en avant, puis ils vont faire ça pour désescalader leur système nerveux, pour revenir à un état normal. Fait que c'est de là que part la théorie que les humains, on le fait pas, mais on pourrait le faire pour relâcher ce système-là. Puis, tu sais, on peut le voir, mettons, un enfant qui s'est chicané, puis tout ça, il va aller dans un coin, puis il va se bercer comme ça. C'est une façon pour lui de venir calmer son système nerveux. Puis, on les perd un peu en vieillissant, mais les animaux, là, le font, c'est ce genre de relâche-là, c'est comme s'il fallait que cette adrénaline-là s'en aille à quelque part, tu sais. Puis là, comme les gens bougent pas, sont de plus en plus sédentaires, ben ce qui arrive, c'est qu'il y a aucun exutoire pour cette accumulation-là de stress, qui est normal. Tu sais, dans le fond, la vie humaine, c'est stressant, je pense. Puis en plus, nous autres, on a un méga cortex frontal qui est tout pour gérer les relations, puis la tribu, puis les relations interpersonnelles, puis qu'est-ce que l'autre a pensé de moi, puis la honte, puis le regret, puis toutes ces affaires-là qui viennent de notre gros lobe frontal. Fait qu'on peut comme penser, fait que notre... Puis comme les humains, on est un animal qui a besoin de vivre en groupe, le fait de penser qu'on est rejeté ou de penser que notre statut social peut être affecté, ça devient quasiment une question de vie ou de mort, là, à un certain point. Fait que ça va, même si c'est juste « Ah, aujourd'hui, Linda, elle m'a regardé croche à la job », mais ça peut créer chez certaines personnes une activation de ce système-là de vie ou de mort. Puis il faut que cette adrénaline-là aille à quelque part. Puis quand que notre façon de passer notre stress, c'est de s'asseoir devant la télé, ce stress-là physique, là, il est là, là. Fait que là, c'est quoi qu'il fait? Ben, il augmente la pression, il augmente on pourra parler de l'insuline puis de la résistance à l'insuline, mais il augmente le stockage de gras, il augmente plein de changements au niveau du corps qui vont entraîner d'engraisser, de garder du gras. Exactement, puis maladie cardiovasculaire au long terme, là. Fait que il faut bouger, en fait, notre corps n'est pas fait pour être assis, là.
C'est vrai, là, tu sais, comme tu regardes ce phénomène-là, c'est que là, les personnes vont avoir une grosse journée, on n'a pas pris le temps de bouger, ben là, on s'assoit devant la télé, puis là, on écoute de quoi qui est très, une série criminelle, qui est comme encore très stressant, puis que là, c'est pas tant des images le fun, puis là, on arrive pour se coucher, puis là, on se rend compte qu'on a de la misère, tu sais, ça prend une heure ou deux avant de s'endormir, on fait de l'insomnie, fait que là, notre sommeil est pas top-notch, le lendemain, on se réveille, c'est une roue qui tourne, tu sais.
Ouais.
Mais c'est vraiment un bon truc que tu donnes de le soir. C'est juste d'avoir un 5, 10 minutes, 15 minutes. Les gens qui ont un peu plus de temps, fine, mais de bouger. Puis c'est pas obligé d'être un entraînement, tu sais.
Comme
I guess que les étirements, que des trucs comme ça peuvent rentrer dans cette catégorie-là de bouger. Puis...
Ben oui, surtout chez les gens qui s'entraînent, mettons déjà, qu'on leur dit tout le temps, faites une séance d'étirement, j'ai jamais le temps de le faire. Mais là, ça serait ça, là, le temps, là, s'asseoir à terre, puis aller essayer de toucher ses orteils, puis étirer sa jambe d'un bord, puis même pas suivre un programme précis, juste faire qu'est-ce qui fait du bien, là, t'sais, les épaules de même, puis tout ça. Puis juste, ou se coucher à terre, puis
respirer,
puis juste comme vraiment revenir dans le corps, puis comme faire bouger le corps légèrement, ça va juste faire, puis c'est pas de quoi de gros, là, ça peut être juste des petits mini-mouvements avec 1 à 2 pouces d'amplitude, là. C'est juste ça que le corps a besoin pour laisser sortir cette énergie-là, puis après ça, on peut vraiment mieux dormir, tu sais. Fait que, puis aussi, pourquoi je pense que c'est en... exponentielle dans les dernières années, tu sais, depuis, je pense que c'est en 2007 que le iPhone est sorti, puis c'est depuis 2007 que vraiment les taux de dépression, idées suicidaires, anxiété, ont vraiment, ça fait genre, oui, vraiment de façon exponentielle, hein? Surtout chez les ados puis les jeunes,
ouais.
Mais tu sais, mettons juste les tentatives de suicide chez les adolescents depuis 2007, là, c'était comme, c'était en train de diminuer, ça l'a comme augmenté vraiment exponentiellement. Fait
Ah
que,
ouais, puis ils ont fait des courbes avec l'entrée, ben avec l'apparition des téléphones intelligents puis tout, qui voit vraiment une corrélation qui
exactement.
chiant,
Fait que c'est
aïe aïe.
vraiment, ouais, c'est l'auteur, c'est Jonathan Haidt qui s'appelle Haidt. Il étudie beaucoup ce phénomène-là de la santé mentale chez les jeunes avec
Ah,
l'apparition des médias sociaux, tu sais. Puis on, parce que étant donné qu'on a tellement une grosse partie de notre cerveau qui est consacrée à l'interaction sociale, à l'interaction humaine, ben l'idée c'est que de voir, parce que justement comme on parlait tantôt pour fonctionner, pour catcher, pour faire de l'argent, ça prend des choses qui choquent, ça prend des choses qui sont des gens qui disent des choses extraordinairement stupides ou des gens, des vidéos de violence à l'école ou des choses comme ça. Puis c'est toutes des choses qu'on n'aurait jamais été exposées en aussi grande quantité s'il n'y avait pas les médias sociaux. Tu sais, des années 1800, là, une personne, dans toute sa vie, l'information qu'elle allait recevoir, c'est équivalent à une page de journal d'aujourd'hui, dans toute sa vie. T'sais, là, nous, on a une page de journal à toutes les 1 minute. T'sais. Fait que j'ai l'impression qu'on est peut-être, j'espère qu'on est rendu au bout du balancier, là. Genre, OK, on est au maximum de l'information que notre cerveau est capable de tolérer avant de virer fou, là. On est proche du virage fou, là, massif, là.
Ah ouais, c'est
Fait que,
fou
t'sais,
là.
à un moment donné, il faut, t'sais, beaucoup de personnes que je connais qui vont bien, ils n'ont plus de télé, ils n'écoutent plus les nouvelles. Ils sont en train de se, tu sais, puis là, t'as le monde vraiment hot qui ont plus de Facebook, qui ont plus d'Instagram, puis qui sont en train de sortir de tout ça. Puis on dirait que la clé vers la santé mentale réside vers le jeûne de ces méthodes-là, parce que c'est associé, on le voit vraiment, là. Plus que tu passes d'heures sur ton téléphone, plus que t'as de risques d'avoir de l'anxiété puis de la dépression.
C'est fou, hein, sérieux. Puis, j'en ai déjà vu des stats de même, là, comme je pense, la personne des années 1800, je pense que la quantité d'informations, c'était l'équivalent à nous autres, une journée ou une semaine, comme tu dis, là. C'est fou, hein, quand tu penses à ça, à quel point que on est surbombardé d'informations, puis les réseaux sociaux, avec les jeunes. Ben écoute, je m'en venais, excuse-moi, mon char, j'ai un Corolla, mon deuxième char, c'est un Corolla, OK, puis j'ai plus de fil pour brancher mon téléphone pour écouter la musique. Fait que des fois, j'écoute la radio. Là, c'était tombé sur une conversation que, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait eu, je pense, c'était ça à la fin d'année 2023, ben là, ça en parle encore, d'enlever les téléphones intelligents chez les étudiants dans les écoles primaires, secondaires, du moins, où ce que là, il y a un débat, je pense, là-dessus. Est-ce qu'on devrait leur laisser la technologie? Puis tout. Puis l'animateur de la radio disait, je pense que la question c'était comme, mais moi aussi j'étais sur mes écrans dans le temps avec mon Game Boy, avec mon PlayStation. Fait que c'est juste que ça a changé. Puis au final, il banalisait peut-être un peu ça, mais la personne qui répondait, écoute, j'étais un. Ben, je sais pas trop c'est qui, là. Bref, je connais pas les noms des deux, mais lui, il disait. Ouais, mais t'as peu, là. C'est parce que dans le temps, tu jouais, tu gamais. Après 1 heure ou 2, t'as passé ton tableau. Merci, bonsoir. Tes parents, ils allaient te mettre dehors. Puis sur ta tablette, sur ton Game Boy ou Xbox, whatever, t'avais pas accès à de la criminalité, de la pornographie, de l'intimidation. Sur ton téléphone en ce moment, t'as une personne de 12 ans qui a pas encore de maturité, qui est capable de faire des affaires. Tu sais, qui a la même accès que nous, qu'on a une certaine maturité dans la trentaine, mettons que. On est capable de dire, crème, on va l'utiliser intelligemment, mais eux ne sont pas assez, sont pas rendus là dans leur développement. Puis ils ont accès à plein d'affaires que c'est fou ce qu'ils ont accès que nous, on n'avait pas accès. Fait que clairement que ça va. Il y a une bombe qui est en train de péter à quelque part là-dedans, puis il y a quoi qu'il faut que change, c'est sûr et certain. T'sais. Puis je pense que
Absolument.
ça va toujours être présent dans notre société, la technologie, ça ne changera pas. Mais il faut avoir de l'éducation là-dessus, comment bien l'utiliser, puis mettre des barèmes ou des paramètres qui font du sens pour les enfants, parce qu'il faut qu'il y ait de quoi qui change, là. Parce que là, c'est fou
Absolument.
quand tu penses à ça. Les taux, tu sais, les gens. Écoute, il y a des jeunes qui prennent des antidépresseurs aujourd'hui. I guess que tu dois être au courant de ça. Puis là, le but, c'est pas de dire est-ce qu'ils doivent en prendre ou pas, c'est juste que. Qui en prennent, ils n'ont probablement besoin, mais c'est parce que l'affaire, c'est la société actuellement qui a un problème à quelque part. Parce que moi, quand j'ai grandi, il y en avait peut-être qui en prenaient des antidépresseurs des jeunes, mais au prorata, ils n'avaient pas autant qu'aujourd'hui, I guess. Fait que là, c'est pas le débat, est-ce qu'ils devraient en prendre ou pas? Parce que le débat, c'est comme la société, il y a de quoi à faire à quelque part, là, parce que c'est dans mon livre à moi, dans Nature, un enfant de 12 ans, la majorité du temps, là, on va enlever les exceptions, n'a pas besoin d'antidépresseurs, selon moi, tu sais. C'est juste que là, à l'école, l'intimidation, tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ça la racine du problème. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, t'es plus là-dedans que moi aussi. Là.
C'est tellement intense, parce que quand je faisais ma formation en médecine de 2010 à 2015, quand on est médecin de famille, dans le fond, ce qu'on apprenait, c'est que idéalement, c'est les pédiatres qui devraient partir des antidépresseurs aux ados, aux enfants, en bas de 18 ans, en bas de 16 ans, mettons, là, 16, 17, 18, juste à cause de la maturité du cerveau, tu es en train d'aller changer les neurotransmetteurs au niveau du cerveau, puis c'était comme, c'est mieux de le laisser au pédiatre. Parfait, fait que moi, je commence ma carrière en tant que médecin de famille, puis là, j'envoie un référent au pédiatre, j'envoie deux référents au pédiatre, mais là, à un moment donné, là, quand ça fait comme 6 mois qu'il attend le pédiatre, puis que là, ça rentre, là, j'ai des patients tout le temps, là je suis comme, ben je peux pas les laisser... Ils sont tellement souffrants, mais j'ai pas vu de tous les ados que j'ai sous antidépresseurs, là, j'en ai pas un que le téléphone, c'est pas un problème. C'est tout le temps qu'est-ce que tu fais de ta fin de semaine? Je suis sous mon téléphone dans ma chambre, dans le sous-sol. Ils sortent pas dehors, ils voient pas la lumière du jour, ils font des TikTok. Une grande partie d'entre eux, ils font des TikTok, mais ils sont tellement souffrants, c'est de l'anxiété que. J'ai jamais vu, ils sont pas capables, ils viennent dans le bureau avec moi à 14-15 ans, ils sont pas capables de parler. Ils sont tellement anxieux. Fait que, tu sais, là, il y a aussi toute la problématique parentale, là, comment ça se fait. T'es le parent, c'est toi qui paye l'Internet, pourquoi que tu changes pas le code Internet ou que tu lances pas le téléphone dans le feu, là, ça, je le sais pas. J'ai un enfant, elle a 3 ans, je suis pas rendue là, je peux pas juger les parents, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose par rapport à l'autorité... du parent par rapport à son enfant, mais c'est certain que je vois tous mes ados qui ont besoin, qui sont rendus au point, là, ils ont toute une problématique par rapport à l'utilisation du cellulaire. Mmh. C'est 4, 5, 6, 7 heures par jour dans leur chambre. Oui, vraiment. Fait que. Puis ceux, mes ados qui vont bien, là, que je vois parce que justement, c'est des athlètes, puis ils ont mal à quelque part, ou les ados que je vois pas, c'est des ados qui ont plein d'amis, qui sont tout le temps dehors, puis qu'ils utilisent leur téléphone pour une heure par jour le soir, puis la titre. Fait que je suis certaine que ça a un lien.
Ouais. Je pense que c'est important d'en parler dans des podcasts comme ça parce que, tu sais, là, on pourrait regarder après ça, on jumperait sur, bon, les parents qui ont un ado de 13-14 ans qui est sur TikTok, qui passe ses fins de semaine sur TikTok, mais peut-être qu'un, ils ne sont pas conscients que le téléphone, ça amène une problématique. Souvent, il y a même pas d'informations, ils ne savent même pas, puis ils se posent des questions, de pourquoi, mais ils ne savent pas que les réseaux sociaux, puis tout ce phénomène-là va causer qui va avoir des conséquences sur leur fils. Fait que d'un, soit qu'ils ne savent pas, puis là, de deux, soit que ben le crime, sans dire qu'il achète la paix, mais là, les semaines vont vite, là, à quel point que. Fait que c'est fou à quel point que c'est une grosse pieuvre, là, tu sais, il y a plein d'affaires que t'es comme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut juste qu'il y ait un gros débat de société, puis que tout le monde mette la main à la porte, puis que là, on commence à changer les choses. Là, mais c'est des affaires qu'on parle pas, on n'entend pas souvent parler.
Oui.
Mais je trouve ça cool d'en parler dans des podcasts comme ça, que il y a de quoi faire. Tu le vois, là, comme les ados, c'est les gens qui ont des moins... qui se ressortent le moins d'une dépression, c'est qu'ils sont beaucoup sur les écrans, puis ils sont beaucoup dans...
Puis tu sais, quand ton ado est rendu à 14 ans, mais que ça fait depuis que 8 ans qu'il y a un cellulaire, toi aussi, t'as une petite fille, elle a 2 ans, je pense.
Puis
si tu lui donnes le téléphone 5 minutes, là, essaye d'y enlever après. C'est le bacon, c'est quasiment... C'est épeurant de voir à quel point que rapidement ils deviennent... Fait que là, nous, je pense qu'on est comme un peu sur l'arrière de la vague avec des enfants plus jeunes, parce qu'on est capable de voir les ados qui ont grandi avec ça, puis de se dire comme, tabarouette! Fait qu'on peut commencer tout de suite à pas, mais j'ai l'impression que quand ça fait comme 5-6 ans, c'est comme si le téléphone était rendu comme imbriqué dans leur système neuronal, là, parce que ils disent, les parents me disent, oui, mais si j'y enlève son cellulaire, là, il va menacer qu'il va se suicider.
Ouais, c'est ça. C'est quoi que tu veux faire? Tes parents, t'es comme, what the fuck, mon fils me dit ça, mais ma fille me dit ça, t'es comme,
c'est ça.
Là, garde-les ton téléphone.
C'est ça, exactement. C'est... Puis des fois, les parents eux-mêmes ont une addiction à leur téléphone, tu sais. Fait
Je pense
qu'ils sont au souper, puis tout le monde a leur téléphone autour de la table, tu sais. Fait que je pense que montrer l'exemple.
Montrer l'exemple, puis Puis moi, mettons, là, comme je remarquais ça, j'étais comme, parce que oui, je vais me servir beaucoup avec la job. On essaie d'avoir une présence en ligne, puis ça demande une grosse partie de notre travail, OK? Sauf que il y a une grosse partie là-dedans que je pense que je perds mon temps, puis que ça mène à rien. Puis je remarque une différence quand je me lève le matin. Comme un matin, mettons, je me suis dit, hier, quand je me suis couché, je remarquais que j'étais plus sur mon cell. J'ai dit, demain matin, quand je me lève, là, en allant aux toilettes, la première chose que je fais, j'ouvre pas mon cell. Je vais l'ouvrir à 7 heures. Tu sais, je me lève à 6:15. À 7 heures, je regarderai mes messages. Aussitôt que je vais avoir bu mon eau, fait mon café, mangé mes cocos, passé un peu de temps avec ma blonde, ma fille, puis qu'on va être un peu all set pour partir. Là, je regarderai un peu mon téléphone. Sauf que je sais que moi, si je commence, là, la première affaire que je regarde le matin, c'est ça. Tout le long de la journée, je vais regarder mon cellulaire. Pas mal plus. Fait qu'il y a des affaires qu'on peut mettre en place pour être, tu sais, comme, mettre ton téléphone dans ton iPhone, tu peux le mettre en noir et blanc. Je le fais pas, mais il y en a là, qui l'ont appliqué, ce truc-là. Là. C'est plate en Christie à être sur Instagram quand ton iPhone est en noir et blanc. Là, t'es comme, je pense à d'autres choses. Fait que c'est de rendre... Je pense qu'il y a des trucs qu'on peut optimiser pour... C'est juste déléter ton Facebook de ton cell. Fait qu'à toutes les fois que tu as besoin d'y aller, ben là, il faut que tu le réinstalles. Fait qu'il y a des barrières qui vont se créer avec l'organisation que tu as faite dans ton téléphone. Fait qu'il y a de quoi à faire, c'est sûr. Puis comme tu dis, si bien, ça part de nous autres aussi. Là, parce que nos enfants nous imitent. C'est ma blonde, ma fille est capable de prendre une photo puis changer de tune sur le téléphone. Clairement qu'elle m'a vu faire ça.
C'est ça.
C'est ça.
Puis, tu sais, ça revient un peu à aussi à, tu sais, j'aime vraiment l'expression anglophone doom scrolling, là. Tu sais, que tu vas juste scroller jusqu'à l'infini, là. Puis que tu regardes l'heure, puis tu regardes l'heure après, puis il y a 3 heures qui est passée, là. C'est fou. Ça, c'est incroyable. Puis c'est de voir aussi, de revenir un peu à ce qu'on parlait par rapport à manger. Je pense que on se dit, crème, j'ai travaillé fort toute la journée, je vais aller geler, littéralement. Là. On va geler notre cerveau avec ça. Là. On s'en va, genre, se chercher de la grosse dopamine sale là, en checkant des vidéos, bing, bing, bing. Puis quand une vidéo est plate, on peut le changer immédiatement. On n'a pas besoin d'attendre, tu sais, comme nous, quand on était petit, il fallait attendre que les annonces soient finies avant que notre émission en revenait. Fait qu'on pratiquait ce genre de système-là, de comme d'attendre la récompense, tu sais. Puis, sauf que là, là-dedans, c'est « Ah, c'est plate, change! Ah, c'est plate, change! » Fait que là, on devient complètement intolérant à l'inconfort, complètement intolérant à ce qui fait pas mon affaire immédiatement, fait qu'on devient super impatient. Mais pourquoi que j'ai besoin de ce genre de moment-là pour comme complètement me déconnecter de la réalité? Ça vient probablement aussi de ce stress-là qui est accumulé à l'intérieur de nous, puis qu'on se sent pas bien, puis qu'on veut immédiatement, en l'espace de 4 secondes, se sentir mieux. Fait que ça provient aussi de ça, là.
Exact. Puis, tu sais, il y a des stats qui avaient sorti le nombre de fois qu'on prenait notre téléphone puis qu'on faisait juste regarder par jour. Je m'en rappelle plus c'est combien, mais c'est en haut de 150 et plus, là. Fait que, tu sais, quand tu y penses, c'est du temps. Puis, parce que je veux pas trop passer de temps parce qu'on passera un peu sur la fin du podcast, mais j'avais une conversation même avec un client, OK? Puis je disais, moi, mon père, quand j'étais plus jeune, puis j'habitais encore chez mes parents, le samedi, mon père, mettons, un samedi de printemps, il avait le temps de laver la cour, laver les vitres, changer les pneus des deux chars, racler le terrain, tout ça en une journée. Puis nous autres, là, changer, notre génération, là, changer les pneus, puis laver les vitres, on est comme... Tabarnache qu'on a gaulé. Sauf que mon père, mettons, là, j'ai mon père, il était le soir, le matin, il était à sa toilette, il disait c'est circulaire, il venait une demi-heure, c'est l'équivalent nous autres de checker notre selle. Après ça, il partait tout le reste de la journée, puis il accomplissait ses tâches. Nous autres, là, on change deux pneus, on regarde notre téléphone. On change un pneu, on regarde notre téléphone. On change l'autre pneu, on regarde notre téléphone. On va les porter dans la remise, on regarde notre téléphone. Après ça, on dit « Ah, ben on va regarder notre téléphone en dedans, puis on va laver les vitres. » Fait qu'on perd tellement du temps à regarder notre téléphone une journée de fin de semaine qu'on est comme « C'est sûr qu'on accomplit pas mal moins que nos parents. » C'est qu'eux autres, ils étaient comme « Là, j'ai pas de temps de niaiser avec un téléphone. Moi, j'ai des tâches à faire dans la journée. » Et des fois, il faut plus se rappeler à ça. J'étais comme « C'est clairement, là, si tu veux être productif dans ta journée de fin de semaine ou ce que tu as plein d'affaires à faire, drop ton sel, puis reprends-le le soir à 6h, tu vas voir, là, tu vas être bien plus satisfait de ta journée. Puis il faut y penser aussi, c'est quand les fois que, tu sais, tu te dis, on parlait d'énergie, puis se faire du bien. Moi, c'est jamais arrivé que je regardais mon téléphone, puis je scroll pendant 45 minutes, puis après ça, je suis comme, ah, ben ouais, que ça m'a fait du bien, là. Je suis tellement énergé.
Je suis fier de moi.
C'est jamais arrivé, tu sais. Je pense que c'est juste de garder la courbe de plaisir. T'es comme, c'est sûr que c'est cool aller voir sur Instagram les stories du monde. T'as comme un peu d'entertaining avec ça. Fine, tu sais. Tu vas voir les vidéos de niaiseries d'Arnaud Soli. T'es comme, est-ce que c'est drôle? Mais après ça, tu passes à d'autres choses, tu sais. Fait qu'il faut juste être capable de s'auto-discipliner.
Oui.
Puis d'avoir, d'utiliser comme être accessoire pour avoir du plaisir, good, mais après ça, on passe à d'autres choses.
Vraiment. Vraiment. C'est très, très vrai, ça.
Fait que, tu sais, si on revient avec la santé métabolique, on a parlé du stress qui était vraiment intéressant. Puis, quand on parle de santé métabolique, là, on va parler à cholestérol, évidemment, qui fait partie de ça. Fait que le cholestérol qui est trop élevé, l'hypertension, après ça, t'as-tu d'autres points que tu peux nommer? Comme c'est quoi les conditions qui fait qu'on a une moins bonne santé métabolique ou on a des maladies chroniques là, reliées avec une moins bonne santé métabolique? Tu peux-tu en nommer quelques-unes?
Mais le diabète, dans le fond, le diabète, ça c'est certain, mais le diabète qui est la fin de la chaîne qui commence très, 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 très tôt puis qu'on n'a presque pas de tests pour le déterminer avant, mais c'est la résistance à l'insuline puis les hauts niveaux d'insuline circulant qui sont vraiment le problème. Puis tu sais, l'insuline, dans le fond, c'est une hormone fantastique. C'est l'hormone qui nous a permis de survivre parce que c'est l'hormone qui nous permet de stocker du gras. Si on n'avait pas cette hormone-là, on n'aurait pas survécu en tant qu'espèce parce que notre alimentation était sporadique. On avait un festin où est-ce qu'on tuait un mammouth à la gang. On mangeait tout le mammouth jusqu'à la moelle des os puis tout ça. Puis après ça, on pouvait être une semaine sans manger. Fait que si on n'était pas capable de faire des réserves puis qu'on était juste capable de manger puis de l'utiliser immédiatement, on serait toutes morts. Mm-hmm. Fait que l'insuline a fait partie de notre survie. Sauf que là, le problème, c'est que comme on mange, là, on est dans une abondance assez ridicule en termes de calories puis de nutrient dense, là, d'aliments denses en nutriments. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on mange, fait que quand on était plus primitif, donc on mangeait, on avait une sécrétion d'insuline pour aller stocker dans nos fesses, notre bédaine, notre corps prenait les nutriments, il fait des briques avec, puis ces briques-là sont du gras, il va les stocker à des endroits où est-ce qu'on peut les stocker. Puis après ça, plus tard, on bougeait, puis là, on avait un système qui partait, puis là, on prenait ces briques-là, on les switchait, plic, 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 on les change, puis on les change en sucre, puis là, on peut fonctionner avec. Fait que c'est malade quand tu y penses, là. Sauf que là, le problème, c'est que, étant donné qu'on mange tout le temps, dans le sens qu'on mange plusieurs fois, 5, 6, 7 fois par jour, une petite croquée là, un dîner, nanana, mais on mange et qu'on est tout le temps en train de sécréter de l'insuline. Tout le temps, fait qu'on est tout le temps en mode stockage. Puis ce qui arrive, c'est que nos cellules n'ont pas été faites pour avoir tout le temps de l'insuline qui se promène. D'habitude, l'insuline, il n'avait pas. Puis à un moment donné, il n'avait plein. Puis à un moment donné, il n'avait pas. Mais là, il y en a tout le temps. Fait que là, ce qui arrive, c'est que mon corps est comme, aux minutes, là, je peux pas tout stocker ce que tu dis. Fait que là, il devient plus résistant. Fait que ça prend plus d'insuline encore pour être capable de sortir le sucre du sang. Fait que ce qui arrive, c'est que le corps ne veut plus prendre le sucre. Fait que le sucre, il reste dans le sang. Puis c'est là que la maladie du diabète arrive. Parce que dans le fond, le diabète, c'est avoir le sang sucré. Ça veut dire que ton sucre, il reste dans ton sang, puis le sucre, c'est comme, ça vient oxyder comme de la rouille. Fait que ça fait que tes artères, ils rouillent. Fait que là, ton cœur, il devient rouillé, tes reins viennent rouiller, ta rétine vient rouiller. Fait que tout ton système cardiovasculaire vient rouiller, là, en gros guillemets. Là. C'est ça les conséquences du diabète. Mais d'avoir une crise cardiaque à cause du diabète, ça fait au moins 30 ans que ton système de gestion du sucre et d'insuline est tout croche, tu sais.
C'est ça.
Exact. Fait que quand les gens viennent me voir, puis qu'on a dans le fond différents marqueurs. Donc, on peut prendre, quand on se pique le bout du doigt, c'est la glycémie. La glycémie, ça veut dire le sucre dans le sang. Fait que ça donne, en ce moment même, là, c'est quoi le taux de sucre dans le sang. Fait que c'est sûr, si on a mangé, ça peut être plus haut que si j'ai pas mangé. Fait qu'habituellement, c'est entre 4 et 7. Ça, c'est un taux normal. Fait que si on prend notre glycémie, puis qu'on n'a pas mangé, puis qu'elle est à 11, wow, c'est vraiment pas normal. Puis même si on vient de manger, tu sais, les femmes enceintes, toutes les femmes qui ont été enceintes le savent, puis les gars aussi, là, on fait le test de sucre. Fait que dans le fond, si on boit un gros truc sucré, puis là, ils testent notre sucre pour voir si notre sucre, il monte super haut. Fait que dans le fond, si le corps, il déteste ça, là, avoir une glycémie très élevée, là. Fait que si t'es capable d'avoir des glycémies très élevées, c'est déjà un signe que ça va moins bien de ce côté-là. Puis après ça, il y a d'autres marqueurs qu'on fait, c'est l'hémoglobine glyquée, là. L'hémoglobine glyquée, dans le fond, c'est un marqueur qui donne un indice de dans les 3 derniers mois, c'était quoi à peu près la valeur du sucre dans ton sang. Fait que, puis là, on a le niveau qui n'est pas diabétique du tout, pré-diabétique, puis diabétique. Fait qu'en dessous, au-dessus de 6,5, on est diabétique. Entre 6,5 puis 6, on est prédiabétique. Puis en dessous de 6, c'est normal. Mais on peut se le faire faire, ce test-là, même là, en tant qu'adulte, quand on n'a pas de problème. Puis on peut voir si on est à 5,9 versus si on est à 4,3. Parce que si tu es à 4,3, c'est un bon signe que ça va bien. Mm-hmm. Puis après ça, moi, chez certains patients, je peux doser l'insuline. Mais c'est un test qui coûte extrêmement cher. Fait que j'essaie de le faire de façon parcimonieuse. Mais si vous avez les sous pour aller vous le faire faire au privé, là, dans un labo privé, ça peut être quand même super intéressant de voir les niveaux d'insuline circulant. Parce que si ton insuline circulante est élevée, ça peut être un bon signe que ta santé métabolique n'est pas bonne. On veut une insuline qui est basse. Fait que...
Et puis ça, là, je pense que bien du monde devrait faire replay les 4-5 dernières minutes pour le répéter parce que c'est un phénomène là qui... Puis l'affaire, c'est que plus tu es résistant, tu sais, la résistance à l'insuline, c'est que plus tu tombes dans ce pattern-là, puis que tu tombes en mode stockage, puis plus tu accumules la masse adipeuse, évidemment, puis plus tu deviens moins bon à gérer ton taux de sucre sanguin. Puis là, c'est là que tu viens que tu rentres dans une boucle sans fin, puis hop, tu as le diabète de type 2 qui va être la conséquence de tout ça. Ouais. Sauf que le diabète de type 2, quelqu'un qui se prend en main puis qui veut vraiment changer ses habitudes, c'est réversible. Parce qu'il y a 100%. Une différence avec le diabète de type 1, que là, c'est génétique, c'est que ton pancréas ne produit juste pas d'insuline. Sauf qu'il y en a beaucoup.
C'est ça, tu n'as pas d'insuline versus le diabète 2, tu as trop d'insuline.
C'est ça, exact. Fait que le diabète de type 2, écoute, j'ai un client, il y a un mois, qu'on avait son plan de match de 3 mois, puis il a enlevé une couple de médication parce qu'il a commencé à se prendre en main, il bouge plus, il dort mieux, ce qu'on parlait depuis tantôt. Puis son médecin, il dit, écoute, là, ta médication pour le diabète, je t'en enlève une sur deux, puis quand tu vas venir me revoir, si tu continues à faire ça, je t'enlève l'autre dans 6 mois, tu sais. Fait que là, lui, il est content, tabarouette, parce qu'il voit qu'il a perdu du gras, puis tout ça fait en sorte qu'il y a une meilleure gestion de son sucre sanguin. Puis c'est vrai, c'est pas parce que tu fais du diabète de type 2 là que t'en feras pas dans 10 ans si tu changes rien aujourd'hui. Et je pense vraiment qu'il faut qu'ils comprennent. Puis je pense aussi, nous, ce qu'on voit, ce qu'on est capable de voir, des fois, avec... tu sais, c'est sûr que si tu vois que la personne avec la circonférence de taille, ça diminue au niveau de... la circonférence de taille, tu vois que la personne a perdu du gras dans son... des affaires que les tests, c'est super bon, mais tu es capable de le voir aussi comme avec des mesures, que ce soit le pourcentage de gras, le poids, circonférence de taille, des trucs comme ça qui fait qu'il y a de quoi qui se passe. C'est sûr qu'avoir les tests sanguins, c'est toujours l'idéal. Ouais. Même te faire te piquer sur le bout du doigt, là. Ouais. Écoute, tu peux te faire faire ça n'importe où.
Oui, à la pharmacie. Ça coûte 2-3 piastres. Ben, mon Dieu, dans le temps, ça coûtait 2-3 piastres. Ça s'est peut-être rendu 18, là, mais... c'est ça. Mais c'est vraiment une bonne façon. Puis surtout, si vous vous faites dire que vous êtes pré-diabétique ou diabétique de type 2 léger, c'est le meilleur moment parce que si vous aimez ça, avoir des récompenses, vous allez avoir des récompenses en dedans de 6 mois, vous pouvez perdre tous vos médicaments. Parce que le corps est tellement mal dans cet état-là que dès que tu vas changer le moindrement, il va faire comme « yes », puis là, il va tout renverser ces mécanismes-là parce que le corps n'est pas bien, là.
Ouais, puis tu sais, là, si en ce moment, tu sais, t'es comme « ah, je suis pré-diabétique » ou « je ne fais pas encore de diabète
»,
attends pas d'en faire.
C'est bon, non.
Attends pas d'en faire, là. Tu fais juste te compliquer la vie. Attends juste pas, puis commence à juste aller marcher, puis boire de l'eau, puis après ça, c'est sûr que... Fait que... je pense que tout part de là, comme d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, puis quelqu'un qui prend soin de lui, qui a des bonnes habitudes de vie, tu devrais pas te soucier de ça. Parce que ton corps, normalement, va être assez intelligent, notre corps est intelligent quand ça va bien. Dans le sens que quand des bonnes habitudes de vie, qu'on est dans un équilibre, le corps va régler tout ça naturellement. Il faut faire confiance à notre corps. Sauf que lorsqu'on vient dans un déséquilibre et qu'on a des moins bonnes habitudes de vie qui s'accumulent dans le temps, bien, notre corps est moins efficace à gérer tout ça naturellement. Fait que là, on a besoin de revenir à de quoi qui est comme plus sain, tu sais.
C'est ça.
Puis aussi, il y a des gens qui ont un léger surplus de poids, là, on ne rentrera pas là-dedans, mais qui ont un léger surplus de poids, qui sont en super bonne santé métabolique. Il y en a qui sont très minces, là, tu sais, le fameux « moi, je mange du McDo tous les jours, puis j'engraisse pas à lécher tout le monde », bien, cette personne-là peut être en très mauvaise santé métabolique.
Oui, absolument.
Il faut comprendre ça aussi. On a
C'est
toujours un
ça.
ami, là, lui, cette personne-là, elle m'a toujours fait chier, elle mange, elle mange, elle
Oui.
mange, elle mange, elle n'engraisse pas.
Oui.
Ouais, on s'en reparlera à 70 ans, c'est qui va avoir une bonne
Exactement.
santé.
C'est ça. C'est ça. Puis un des signes aussi, là, qui n'est pas une prise de sang, mais c'est surtout les filles qui font ça, mais ça s'appelle les hypoglycémies réactionnelles, là. Dans le fond, c'est une. Je vois ça souvent, là, des filles qui vont dire, ben après dîner, là, je me sens fatiguée, puis des fois, je me sens même que je shake, puis que j'ai l'impression qu'il faut que je m'assoie, puis tout ça, puis que j'ai faim, soudainement, là, vraiment un gros craving, puis ils sont pas diabétiques, mais c'est quand même un signe que le corps a de la misère à gérer le sucre. Fait que ça peut être un signe aussi, là, de se sentir mal ou très endormi après les repas, c'est que l'insuline, elle monte quand même beaucoup, fait que là, le sucre sort tout, ce qui est encore un. Donc, le corps fonctionne bien, mais il y a quand même trop d'insuline qui est produite. Fait que dans ce cas-là, c'est vraiment de changer, d'essayer d'introduire beaucoup plus de protéines dans l'alimentation, puis de diminuer le plus possible les carbs, dans le fond, pour. Fait que ça peut être un autre signe aussi, là, qu'on a une mauvaise gestion de l'insuline et des sucres.
Puis, tu sais, les gens qui ont peur des carbs, là, si on parle de ça, comme
Ouais.
tu vas pas développer des problèmes de résistance à l'insuline, puis éventuellement diabète de type 2 en mangeant des patates douces, des carottes, du riz, à moins de manger, écoute, hein, genre des pelletées de riz par jour, de riz blanc, là, that's it, that's all, mais personne ne fait ça. C'est souvent, ça va être les glucides, tout ça, des bons glucides qui contiennent des vitamines, des minéraux, des fibres, puis que
Ouais.
tu consommes avec des protéines, des bons gras, des légumes,
Ouais.
aucun problème avec ça. C'est pas ça qui va causer une moins bonne gestion de la
Non.
glycémie. Sauf que quand tu es rendu diabète de type 2, ben ces glucides-là, mettons le riz blanc, manger du
Ouais.
riz blanc de même, puis
Ouais.
juste des patates, ben là, ça se peut que tu le métabolises pas mal moins bien parce que là, tu es plus efficace à gérer optimalement ton insuline. Fait que quand tu es
C'est ça.
en bon équilibre, puis tu peux manger de quoi, genre, si tu aimes le riz, moi j'aime ça manger le riz, je mange du riz de même. Je sais
Ouais.
que mon corps va le gérer, sauf que quand tu as un problème avec ton diabète de type 2, ton corps le
Ouais.
gérera pas bien.
C'est ça.
Essaie de. Puis les aliments, souvent, que les gens vont créer des problèmes avec la glycémie, c'est tout ce qui est d'aliments ultra transformés, contenant bon, beaucoup de sucre, évidemment, beaucoup de produits transformés, tout ça. Fait que c'est plus ça. L'abus de ça, en fait. Pas que
Oui.
tu en manges une fois, hein, tu feras pas de diabète, là.
C'est
Mais que tu
ça.
t'en manges 3 fois par jour pendant 3 ans.
C'est ça. C'est ça. Puis il faudrait qu'on introduise à l'école la capacité de lire les étiquettes alimentaires, là.
Vraiment.
Parce que, tu sais, même moi, je suis médecin, là, puis quand que ma fille a commencé à manger des collations, j'y achetais des pâtes d'ours, parce que dans ma tête, des pâtes d'ours, c'était un snack pour les enfants qui était bon. Puis à un moment donné, je me suis juste assise, puis j'ai regardé la quantité de sucre qu'il y avait là-dedans, puis je me sentais mal, parce que c'est tellement intense, c'est vraiment un morceau, tu sais, de la pâte à modeler faite avec du sucre. Ça n'a pas de sens. C'est parce que je m'étais pas assise pour regarder, tu sais, mais d'être capable de lire ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de. La mode est vers les produits santé, là, fait que c'est facile de dire faites à partir de vrais fruits. T'sais, mettons les rouleaux aux fruits qu'on mangeait quand on était jeune. C'est des jujubes, mais c'est écrit. Fait que quelqu'un qui n'a pas le temps, qui connaît pas ça, peut dire comme ah, oh, ben, j'ai pas le temps d'acheter les framboises, coûtent 8,99 le petit casseau, m'acheter un rouleau aux framboises parce que c'est fait à partir de framboises. C'est ça, fait que c'est le genre de choses qu'on peut facilement se faire avoir, là.
Oui. Puis l'industrie alimentaire, là, c'est qu'ils peuvent, tu peux, comme, tu sais, souvent, c'est mettons, la margarine, là, à un moment donné, j'avais déjà entendu ça, c'est la margarine à l'huile d'olive. Mais tu peux mettre,
Ouais.
genre, une demi-cuillère à thé d'huile d'olive dans ta
Ouais.
margarine, puis dire, ah, ben là, t'as l'huile d'olive. Fait que, tu sais, faut faire attention. Puis généralement, à l'épicerie, je pense que tout ce qui est dans les boîtes, puis qu'il y a des allégations, genre
Ouais.
fait à partir de vrais fruits ou
Ouais.
enrichi en oméga-3 ou souvent prends l'habitude de regarder en arrière puis regarde la liste des ingrédients. Parce que tu sais, tu peux
Ouais.
voir les rouleaux aux fruits, OK, fait à partir de vrais fruits, premier ingrédient, sucre. Tout en partant,
C'est
t'es
ça.
comme je veux bien croire que c'est fait à partir de vraies framboises, sauf que c'est pas une vraie framboise.
C'est ça. C'est ça. Moi, le truc que j'avais entendu, c'est de juste rester dans l'extérieur de l'épicerie. Puis de jamais rentrer dans les allées à part que tu as besoin de farine,
C'est ça.
pâte de
Les
tomates, des
huiles,
choses comme ça, des
c'est ça,
tuiles, tout ça, mais de ne
les
pas faire
accompagnements.
les allées, là, ça, en général, parce que tous les produits non transformés se situent dans les marges de l'épicerie, là. Fait que.
Ben oui, tu rentres dans la plupart des épiceries, tu es capable de voir que c'est bien rare que tu vas voir une rangée de fruits et légumes en face
C'est
d'une
ça.
rangée de céréales. T'sais.
C'est ça.
Les viandes, même affaire. Il y a les rangées bio, les produits
Ouais.
alternatifs comme qui. qu'on en voit de plus en plus, les rangées bio, ça c'est cool.
Mais qu'il faut encore faire attention aussi, parce qu'il y a des produits, mettons, les remplacements de viande, là.
Ben oui, c'est ça.
C'est comme tu regardes la liste des ingrédients, puis c'est pas bon, fait qu'ils mettent plein de gras, plein de sucre pour que... Puis là, ils vont se dire comme vegan, mettons, mais c'est horrible pour ta santé, là.
Il y a bien du stock, puis tu sais, mettons, tu te renvoies dans une rangée bio... Ah, j'ai pris un Doritos, mais un sac nachos bio. Il reste quand même des chips, fait que c'est correct.
C'est ça.
Si ça te fait du bien, mais ça reste quand même des chips. Okay? Fait que,
c'est ça. Exactement.
Plein, fait que, moi, il y a des affaires cool que tu es comme, tu vois la liste des ingrédients, mettons quelqu'un qui gère un peu moins bien le blé, tu as des alternatives sans gluten, mettons, qui goûtent bon. Fine, OK. Sauf, encore là, c'est une autre allégation, il faut faire attention. Ils se sont mis à mettre du sans gluten sur n'importe quoi qu'il l'était déjà.
C'est ça.
C'est rendu que la moutarde
sans cholestérol.
C'est ça. C'est rendu que la moutarde est sans gluten. Elle a toujours été sans gluten, la moutarde.
C'est ça.
Là, ils ont mis le claim. Mais écoute, là, Mélodie, on a parlé de tellement d'affaires que je pense qu'on gardera les Mythbusters pour une prise 2. Parce que là, on voulait parler de briser des mythes qu'on entend, mais. Je pense que le monde qui va avoir écouté le podcast ont pas mal de stock à digérer. C'est juste le stress. Après ça, on a parlé un peu d'insuline tantôt, ça qui est hyper, hyper pertinent, qui va aider beaucoup de monde. Puis après ça, on a parti un peu sur les téléphones puis tout, mais ça reste quand même voilà qu'on en parle parce que c'est important. Puis puis une affaire qu'il ne faut pas oublier, on parlait beaucoup de signaux de faim. Puis je viens d'allumer là-dessus, puis je pense que c'est important de... Le corps humain est fait pour avoir des signaux de faim. Tu sais, des fois, on voulait tellement bloquer la faim comme mange plusieurs repas dans la journée, comme ça, t'auras pas faim. Fait que là, t'apprends plus à dealer avec la faim puis dire « Hey, j'ai vraiment faim. » Comme là, tu vois, il est midi, j'ai mangé à matin, à 8h, à 7h. Fait que là, je sais qu'à midi et quart, là, j'ai faim. Mais j'ai pas faim de manger... J'ai mon lunch, là, qui est de la viande, des légumes, du riz avec des épices, là. Je sais que c'est ça, puis j'ai faim de manger ça. J'ai pas un craving.
Oui.
Fait que, tu sais, il faut faire la distinction comme, là, j'ai les symptômes, mais l'appétit qui arrive, comme je commence à saliver. Je le sais, là, je viens d'en parler. Je sais qu'est-ce que je vais manger tantôt. Fait que là, je salive parce que je sais que je vais manger des boulettes avec la sauce tomate. Oui. Là, j'aime ça. Fait que là, tranquillement, je commence à créer un peu plus mon processus de digestion qui va m'aider à gérer le repas que je vais manger. Fait que c'est bon d'avoir faim et de dire « Hey, je vais manger mon repas, ça va être bon, puis après ça, ça va aller au souper. » Fait qu'il faut juste être... Je trouvais ça bon tantôt que tu disais « Pas manger selon une heure. » Il y en a qui ont besoin de ça pour mettre un peu plus de structure. Sauf que ce qu'on veut, c'est d'avoir, tu sais, les 3 repas par jour, puis se fier un peu là-dessus, puis manger des collations au besoin. Je pense que les gens qui recherchent un équilibre là, qui fait du sens puis qui n'est pas trop demandant non plus de... Comme tu pars travailler, tu as des enfants, il faut que tu manges 6 fois dans la journée. Juste d'être capable de comprendre les vrais signaux de faim, ça va aider pas mal le monde.
Oui. Puis, tu sais, une des bonnes choses du jeûne intermittent, je pense, c'est que les gens apprennent que c'est correct si on faim.
Exact.
Parce qu'on a comme une tendance à penser si j'ai faim, c'est la fin du monde, je vais mourir. Mais de réapprendre à dire, si j'ai faim, ça va venir, ça va faire une. Puis après, ça va se calmer, puis ça va être correct, puis ça va revenir dans 15, 20, 30, 40 minutes. Puis d'apprendre que c'est correct, là, on va pas mourir si on a faim. Fait que le jeûne intermittent peut aider, peut-être le faire une journée pour expérimenter c'est quoi la faim, c'est quoi... Puis, si je bois de l'eau, j'ai plus faim. Fait que ça peut être intéressant d'expérimenter juste un petit peu là, pour comprendre vraiment c'est quoi que le corps fait quand il a faim, quand il a pas faim. Ça peut être intéressant d'apprendre à gérer ça puis à les redécouvrir.
Exactement. Fait que, on va terminer le podcast sur ça. Je pense qu'on fera une partie 2. Puis, tu sais, normalement, je finis les podcasts avec où est-ce que les gens peuvent te suivre, mais là, tu sais, c'est comme... j'ai ma clientèle, puis je fais mes... c'est différent, tu sais. Vous autres, vous êtes déjà bien occupés pas mal, puis tout. Fait que, par contre, les gens peuvent écouter tes chroniques. T'en fais-tu encore des chroniques à radio? Ou bien c'est sur pause ou...
Non, mais ça dépend vraiment de ce qui se passe dans l'actualité, là, mais c'est à Kick, dans le fond.
OK.
85, 95-7.
OK.
Puis sinon, ben, ça, je suis médecin de famille à Métabetchouane, je prends pas de nouveaux patients.
Ouais, c'est ça.
Puis je suis à l'hôpital d'Alma aussi, des fois, les gens
Ouais.
peuvent me voir là.
C'est
Puis
ça.
c'est ça, je t'avais déjà parlé là que ça serait dans une. J'aimerais ça éventuellement peut-être faire un podcast pour justement jaser ad infinitum de sujets comme ça avec du
Ouais.
monde. Fait que ça,
Mais
c'est sur la. Ça sur la table.
je t'encourage à le faire parce que c'est ça. Ça me c'est ça, ça me fait rire parce que normalement, j'étais comme comment je vais finir le podcast avec Melo? Hey, drop tes réseaux sociaux pour me suivre puis venir faire affaire avec moi, mais
Ouais.
tout est comme non, moi je suis plein en ce moment, je
Oui,
suis en
c'est ça.
branle. Comme bien des médecins, hein, c'est un
Ouais.
peu une réalité en ce moment, mais ce que je voulais dire avec ça, c'est quoi? Le podcast, c'est ça serait cool que. On en a déjà parlé, mais
Ouais.
c'est sûr que ça, c'est un projet que les gens aimeraient bien ça. Fait que surveillez ça de près. Puis au pire, moi, je ferai une mention si jamais tu le lances dans un avenir rapproché. Mais de toute
Parfait.
manière, je pense qu'on fera une partie 2 parce qu'il y avait plein de sujets qu'on voulait
Ouais.
parler ensemble. Fait que éventuellement,
Je pense
on
que
fera une
oui.
partie 2 là-dessus. Puis les gens qui ont écouté le podcast, là, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Puis me donner vos feedbacks, puis après ça, moi, je pourrais les partager avec Mélodie. On se voit au gym, nous, fait qu'on va être capable de faire un feedback de comment est-ce que les gens ont trouvé ça, d'en parler ensemble, puis après ça, trouver peut-être d'autres sujets à faire ensemble. Fait que n'hésitez pas, puis partagez aussi le podcast, soit sur Instagram, les réseaux sociaux, parlez-en avec des membres de votre famille, des amis, des collègues de travail. Parce que là, on vient d'avoir une conversation qui peut aider pas mal, pas mal, pas mal de monde. Fait que juste d'en parler et partager ça sur les réseaux pour que cette conversation-là, se rende à plusieurs oreilles. Puis on laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, YouTube. Fait que merci, Mélodie,
Ça me
d'avoir
fait
été là.
plaisir, Alex.
Fait qu'on reprend ça une prochaine fois.
Parfait.